Adrien Krause.
Le Hezbollah sera interdit en Suisse. C'est la décision prise ce matin par le Conseil national. Quelques jours après le Hamas, c'est donc maintenant le mouvement armé chiite libanais qui est visé. Phileas Sautier, vous avez suivi les débats ce matin à Berne. Qu'est-ce qui motive le Parlement à interdire le Hezbollah ?
C'est une manière d'envoyer un signal clair contre le terrorisme et ça offre plus d'outils pour prévenir les activités du Hezbollah sur notre territoire. C'est ce qu'ont argumenté, en tout cas, ce matin, les défenseurs du texte à Berne. Si l'interdiction du Hezbollah se fait de manière similaire à celle du Hamas, cela devrait permettre des mesures préventives plus faciles, comme les interdictions d'entrée, les expulsions par exemple. Un ensemble de mesures qui permettrait de réduire les menaces terroristes en Suisse. Et ce, malgré les craintes de plusieurs conseillers nationaux ce matin à la tribune du Parlement, notamment, pourrait-on encore accompagner les discussions de paix entre Israël et le Liban une fois le Hezbollah interdit ? La majorité du Parlement estime que notre législation le permet malgré tout. Au final, le texte a été accepté à une large majorité malgré l'opposition des Verts et l'abstention des socialistes. La semaine dernière, l'autre chambre du Parlement, le Conseil des États, avait pris la même décision. Le gouvernement devra donc rédiger un projet de loi.
Phileas Sautier à Berne. À Berne, on y reste. Qui valide l'enveloppe pour la stratégie de coopération internationale 2025-2028. Le Parlement l'a en effet voté ce matin, plus de 11 milliards de francs au total. Pour rappel, la somme allouée pour les projets de la direction du développement et de la coopération avait suscité la controverse au national avec une réduction de 351 millions de francs décidée dans un premier temps par les députés. Les sénateurs ont proposé un compromis dans la foulée avec une coupe abaissée à 151 millions. Compromis accepté donc ce matin. En bref encore, l'Ukraine revendique l'assassinat d'un haut responsable de l'armée russe tôt ce matin à Moscou. Annonce de Kiev tout à l'heure, un attentat à la bombe qui a tué Igor Kirillov, général sanctionné par Londres en octobre dernier pour déploiement présumé d'armes chimiques en Ukraine. C'est le plus haut responsable militaire russe à avoir été tué à Moscou depuis le début de l'invasion russe dans le pays. Situation toujours très critique sur l'archipel français de Mayotte, dévasté le week-end dernier par le cyclone Chiro. Le bilan, lui, est encore incertain, mais l'on craint des centaines, voire des milliers de morts. La députée de l'île, Estelle Youssoufa, appelle Paris à déclarer l'état d'urgence. Selon l'élu, l'île et ses infrastructures sont dévastées. Écoutez.
En fait, Mayotte est méconnaissable. 90% des maisons en dur ont perdu leur toit. Il n'y a plus une seule feuille sur les arbres qui ont tous été décapités. Ma circonscription, c'est la circonscription où se concentrent les bidonvilles. Et les bidonvilles ont été totalement rasées. La population qui était dedans a été engloutie par les coulées de boue et les tôles. Ce qui est très dur, c'est de voir le silence et de voir aussi peu de personnes dehors. Ce sont des zones dans le nord qui sont très très densément peuplées, qui grouillent de vie normalement. Je suis comme beaucoup de foyers, j'ai perdu ma maison et ma famille a vécu l'enfer. Et j'ai la chance qu'ils soient vivants. Et c'est tout ce qu'on se dit quand on circule et qu'on se voit dans les rues. C'est dit, bon ben, au moins on est chanceux, on est vivant.
Estelle Youssoufa, interrogée ce matin sur Radio France. Alors qu'Emmanuel Macron est attendu dans la région, ces prochains jours, il décrétera un deuil national. Les missions diplomatiques continuent à arriver à Damas pour rencontrer les nouvelles autorités syriennes. Des diplomates allemands sont notamment attendus dans la capitale aujourd'hui. Le chef de la coalition a désormais au pouvoir, lui, s'est engagé à dissoudre et à intégrer dans l'armée les factions qui ont contribué à la chute de Bachar el-Assad. Il a également réclamé la levée des sanctions internationales. Lui dirigera le théâtre du Jura dès la mi-janvier. Denis Maillefert succédera à Robert Sandeau en tant que directeur artistique. L'annonce a été faite ce matin. Le metteur en scène vaudois a récemment co-dirigé deux théâtres, dont la Comédie de Genève. Une hausse d'impôts, c'est non à Bulle. Le législatif de la deuxième ville du canton de Fribourg a refusé hier soir une augmentation de près de 6 points du coefficient qui n'a plus bougé depuis 2007. Il a balayé une proposition qui venait de l'exécutif de la commune. Mehdi Piquant, on vous retrouve à Fribourg. Pour la majorité de droite, il y a mieux à faire.
Ouais, pour le PLR, le centre et l'UDC, augmenter le coefficient de 74,3 à 80%, c'est bien trop radical. Avant d'imposer le citoyen, la droite demande d'adopter une vraie politique d'austérité à Bulle. Et c'est là justement qu'il y a désaccord profond avec l'exécutif de la ville, pourtant lui aussi à majorité de droite. Il assure avoir coupé partout et qu'il n'y a plus de gras à enlever aujourd'hui. Il n'a pas réussi à convaincre, mais il a répété que le chef-lieu gruyérien ne pourra pas se permettre de conserver encore longtemps un coefficient d'impôt plus bas que la grande majorité des communes fribourgeoises. La faute à une démographie galopante, plus 19% entre 2016 et 2023. La population explose, les besoins en infrastructures aussi. Sauf que malgré son dynamisme économique et démographique, les recettes fiscales, elles, ne suivent plus du côté de Bulle. La hausse d'impôts risque donc de revenir tôt ou tard à l'agenda. Mais peut-être pas dès l'année prochaine où nous serons à 3 mois des élections communales.
Mehdi Piquant, vos précisions depuis Fribourg, merci. Et puis on jette encore un coup d'œil à la flotte du Vendée Globe. C'est de la voile bien sûr, avec un changement ce matin en tête de course. C'est désormais le français Yoann Richaume qui est en tête devant Charlie Dalin. Côté roman, Justine Métro est toujours 11e. Alain Roura, 20e. La météo, du soleil en toute région cet après-midi. Malgré quelques voiles nuageuses d'altitude. Le mercure maximum 6 degrés, même programme attendu pour demain.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
RTS vous adresse ses meilleurs voeux. Joyeuse fête. Toutes nos voix vous souhaitent de la douceur. Les références, Julian Sykes.
Si le chef d'orchestre n'a pas d'autre pouvoir que la qualité de sa technique, il n'arrivera pas non plus à une interprétation très, très extraordinaire, parce que le musicien ne s'intéressera pas énormément au côté musical, mais s'intéressera alors uniquement à la précision des attaques, par exemple, à l'exactitude de certains ralentis qui sont plus ou moins faciles à faire, etc.
La voix de Pierre Boulez qu'on retrouve pour le deuxième volet d'une série de 5 émissions consacrées aux chefs français. On commence avec la Feria tirée de la Rhapsodie espagnole de Maurice Ravel. Une splendeur de musique évoquant une Espagne sensuelle et colorée. Bienvenue dans les références. feu d'artifice pour la fin de la rhapsodie espagnole de Ravel, c'était la Feria, interprétée par Pierre Boulez à la tête de l'orchestre de Cleveland. Pierre Boulez, chef d'orchestre, c'est une activité intense dès le début des années 60 et dans les années 70. Il dirige en France, en Allemagne, au Festival de Bayreuth, en Autriche, au Festival de Salzbourg, en Angleterre et aux États-Unis. La direction d'orchestre l'accapare tellement qu'il a de moins en moins de temps à consacrer à la composition. Il doit jongler entre ces deux activités et c'est un casse-tête pour son agenda journalier. À Londres, comme aux États-Unis, le chef français enregistre des cycles entiers consacrés à Ravel et Debussy. Ses interprétations, très remarquées et très discutées à l'époque, apportent quelque chose de neuf. Elles se distinguent par une précision absolue, le soin porté aux timbres et aux couleurs. On va rester dans cette ambiance hispanisante avec la première pièce tirée du triptyque « Images » de Claude Debussy, par les rues et par les chemins. Boulez dirige à nouveau l'orchestre de Cleveland.
Thank you.
Pierre Boulez et l'orchestre de Cleveland dans la musique de Claude Debussy, Par les rues et par les chemins, tiré du deuxième cahier d'images pour orchestre. Pierre Boulez forge un style de direction unique à son époque. Il dirige à main nue, sans baguette, de façon un peu géométrique. Ça paraît tellement mécanique et analytique que certains pensent qu'il dirige comme un chef de gare. Mais ses gestes sont beaucoup plus souples qu'on l'imagine. Déjà en 1967, c'est-à-dire près de 10 ans après avoir commencé à diriger, il a développé une technique qui lui permet d'obtenir exactement ce qu'il veut, surtout pour la musique nouvelle et pour l'avant-garde contemporaine. Il s'en explique au journaliste Henri Jaton avec cette acuité de pensée qui le caractérise.
N'oubliez pas qu'un chef d'orchestre dans les œuvres habituelles se sert pratiquement de ses deux bras d'une façon sommaire, et qu'il bat toujours une mesure, plus ou moins souple, mais enfin que tous les musiciens sont soumis à son pouvoir unificateur, disons. Tandis que je trouve pour mon compte que dans l'œuvre actuelle, le chef d'orchestre, enfin, et ça, je vois ça maintenant très en compositeur, le chef d'orchestre est le personnage qui peut au contraire résoudre les antinomies ou créer les antinomies. Je veux dire qu'il peut donner par exemple libre champ aux musiciens, il peut simplement donner des espacements de temps, et il peut, au contraire, avoir des rythmes très stricts d'un côté de l'orchestre et des signaux seulement à d'autres instrumentistes.
Oui,
c'est un peu abstrait, mais c'est ça quand même. Il distribue à chaque musicien sa façon propre de concevoir le temps musical. Vous voyez, parce qu'autrefois, il y avait le chef d'orchestre était le pouvoir unificateur aussi dans le temps, n'est-ce pas, j'entends bien, tandis que maintenant, il est finalement une espèce de force de répartition par rapport aux musiciens d'orchestre. Et j'entends bien, par exemple, que même dans la dynamique, si vous voulez, il peut lui-même faire des fonds extrêmement pianissimo, ce que j'envisage maintenant, diriger, enfin unifier, si vous voulez, des fonds pianissimo. Et en dehors de ça, il peut donner des signaux à certains instrumentistes dans la dynamique et complètement indépendante de sa volonté, ou alors plus ou moins indépendante de sa volonté suivant la direction de ses signes. Et à ce moment-là, il ne peut pas faire le geste dynamique. Donc l'instrumentiste est obligé de prendre lui-même sa responsabilité en ce qui concerne la dynamique, par exemple. J'ai dû inventer moi-même, si vous voulez, pas inventer, mais enfin transformer en tout cas la méthode de direction. Parce que pour ces œuvres-là, l'ancienne méthode de direction est inefficace. Si vous allez donner simplement un signal d'entrée pour un instrumentiste, vous n'allez pas donner ça avec une expression comme vous donnez un sforzato expressif pour tout un orchestre, vous comprenez ? Vous faites des gestes par moments qui sont beaucoup plus détachés et au contraire, d'autres moments, vous faites des gestes beaucoup plus volontaires que ne le sont jamais les gestes de direction habituels. Moi, pour parler de cela. Mon œuvre a influencé ma technique de direction, certainement, indéniablement, de reste. Mais en ce moment, je suis sûr qu'il y a une espèce de choc en retour qui se produit, c'est-à-dire que la direction que j'ai beaucoup développée maintenant influe aussi et me permet de trouver beaucoup de nouvelles possibilités devant lesquelles, avant, j'étais très réticent ou je n'osais pas parce que je me suis dit peut-être on ne trouvera pas une solution possible. Parce que maintenant, je sais très bien que la solution est possible et qu'elle passe par simplement une certaine technique. Il faut avant tout avoir une grande capacité d'analyse.
Pierre Boulez.
Je trouve que on ne peut bien diriger une partition que si on en a fait l'analyse très profondément, si on connaît vraiment tous les détails, et qu'en même temps, on est allé assez loin dans cette analyse pour pouvoir retrouver une synthèse de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on n'a pas gardé une vision analytique, une vision par petits bouts, mais qu'on a reconstitué l'œuvre dans son entier et qu'on peut lui donner une tension sur tout l'espace de temps qu'elle requiert. Je prends un exemple pratique pour ces considérations qui peuvent paraître un peu générales et abstraites. Si vous dirigez l'opéra Votre Sexe, c'est un opéra qui est beaucoup moins long que Parsifal, qui ne dure qu'une heure et demie, un peu plus d'une heure et demie, mais qui, dans un certain sens, est plus difficile à diriger d'un point de vue purement technique maintenant, j'entends, car les problèmes posés par l'équilibre de l'orchestre, entre, par exemple, les cuivres et les cordes, ou entre des cuivres tutti ou des cordes plus ou moins solistes. L'équilibre des parties principales et des parties secondaires. C'est-à-dire que, par moment, Berg a écrit une partie secondaire pour deux trombones et une partie principale pour un alto solo. Eh bien, à ce moment-là, il faut rectifier la dynamique ou bien faire comprendre aux musiciens qui jouent cela que la partie qu'ils jouent est plus importante. En bref, quand on répète ce genre de choses, il faut en pratique donner une leçon de composition sans avoir l'air d'en donner une. C'est-à-dire qu'il faut analyser pragmatiquement l'œuvre avec l'orchestre sans faire de la pédagogie ennuyeuse. Vous savez, pour ma part, je mène comme ceci les répétitions, mais j'ai horreur de parler. Je veux dire, je ne vais pas analyser devant l'orchestre, par exemple, pendant un quart d'heure, telle scène en disant « voilà, ceci est fait comme ça, premier thème, deuxième thème, etc. » Ça ne sert strictement à rien. D'abord parce qu'au bout de 5 minutes, on ne vous écoute plus. Au bout de 5 minutes encore, je suis généreux, je dirais au bout de 2 minutes même. Et on a raison, parce que ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, ce n'est pas une analyse théorique. Une analyse théorique est faite pour un cours de composition. Pour un cours de composition, je peux analyser toute une scène, par exemple, dans le détail, en donnant, enfin, chaque fois, les motifs de cette analyse. Mais quand je suis devant un orchestre, au lieu de dire « ah bien voilà, c'est le premier thème, etc. », je fais jouer le premier thème, par exemple, par les instrumentistes. Et je dis « voilà, c'est ce que je veux avoir très clairement au départ ». Je fais une traduction de l'analyse dans un vocabulaire pratique.
Mein Töchterlein liegt auf der Hand. Margaret! Und es sich hier, Margaret! Margaret, du bist so heiß. Wart nur, wirst auch kalt werden. Kannst nicht singen.
In Schwabenland, da Martinette und lange Kleider, Martinette.
Band verdient wie die Ohrringlein mit deiner Sünde. Was hängen dir die schwarzen Haare so wild? Helde! Helde! Sie werden nach mir suchen. Das Messer verlegt mich. Da! Hinunter. Es taucht ins dunkle Wasser wie ein Stein. Aber der Mond verrät mich. Der Mond ist Blut. Will denn die ganze Welt es ausplaudern? Das Messer, es liegt zu weit vorn.
Sie finden's beim Baden oder wenn Sie nach Muscheln tauchen. Ich find's nicht.
Une scène tirée de l'opéra Wozzeck d'Alban Berg avec la voix de Walter Berry. Ça se passe ici dans une taverne, au troisième acte. Wozzeck essaye d'entraîner les fêtards dans une danse. C'est pour ça qu'on entendait une sorte de piano-bar. Alors qu'il vient de poignarder sa compagne Marie près d'un étang. Il se sent vaguement coupable et retourne vers le lieu du crime. Il essaye de retrouver le couteau avec lequel il a tué Marie et le jette dans l'étang. C'était donc la version de Pierre Boulez dans un fameux enregistrement avec l'orchestre et le chœur de l'Opéra de Paris, version des années 60. Alors on va quitter cet univers suffocant pour se repaître un peu avec la musique d'Hector Berlioz. Car Boulez a aussi enregistré quelques œuvres de Berlioz dans les années 60 et 70. On pourrait citer la Symphonie Fantastique, qui manque un peu de démesure à mon goût, Les Nuits d'été, Roméo et Juliette plus tardivement, et puis encore une œuvre en six parties, avec récitant, voix soliste et chœur, intitulée L'Hélio ou le retour à la vie. Selon Berlioz, l'Hélio est la suite de la Symphonie Fantastique. Il a écrit que l'œuvre doit être entendue immédiatement après la Symphonie Fantastique, dont elle est la fin et le complément. D'ailleurs, Berlioz y réutilise un thème célèbre, l'idée fixe, et ce monodrame lyrique est inspiré de ses amours tragiques, malheureuses avec des femmes, dont l'actrice irlandaise Harriet Smithson, qu'il a fini par épouser. On va écouter le dernier tableau de cette œuvre, qui est le plus beau, un tableau inspiré de la pièce de Shakespeare, « The Tempest ». des couleurs rutilantes pour cet extrait du monodrame lyrique Lélio ou le retour à la vie de Berlioz, le dernier tableau intitulé « Fantaisie sur la tempête de Shakespeare ». Nous écoutions Pierre Boulez à la tête de l'Orchestre symphonique de Londres et aussi le chœur de l'Orchestre symphonique de Londres, un enregistrement réalisé en octobre 1967 à Londres. On va se quitter avec une autre œuvre méconnue, cette fois-ci de Claude Debussy, « Printemps en deux mouvements ». Et ce printemps que Pierre Boulez a enregistré à deux reprises. Chaque version discographique est belle, avec des qualités assez dissemblables, au point qu'on pourrait dire que c'est presque deux chefs différents qu'on a pour ces enregistrements. J'ai choisi le premier enregistrement des années 70, puisque nous étions à Londres, nous serons de nouveau à Londres. Pierre Boulez dirige le New Philharmonia Orchestra. On se quitte sur cette musique très atmosphérique de Claude Debussy, Printemps, dans une orchestration confiée par le compositeur à Henri Busser. Pierre Boulez dirigeait le New Philharmonia Orchestra de Londres dans sa première intégrale Debussy des années 70 pour CBS. C'est ainsi que se termine cette deuxième émission d'une série de 5 consacrée au chef Pierre Boulez. Je me réjouis de vous retrouver demain pour un programme consacré essentiellement à Stravinsky. Un grand merci pour votre écoute, chers auditeurs, et un grand merci à Bastien Mucli pour son assistance à la réalisation. À demain donc pour de nouvelles aventures. Vous écoutez RTS Espace 2, il est 13h, tout de suite le journal.